Eh, mes paroles, Valtière, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Gaznés m'appellent le Tier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcelle représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? Ah, boule maçonnale, leggy leggy, we gotta motivate, educate, so PDG, let's get it!
We hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman.
De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, le grand patron, le grand frère, musicien, leader, mais surtout philanthrope. Le légendaire Asalfo. Asalfo, comment tu vas, mon frère?
Je vais bien, et toi, tu vas bien?
Tout va bien.
Tu m'as fui à Abidjan, je t'ai retrouvé à Paris.
Tu fais plaisir, Asalfo.
Merci de me recevoir.
Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ouais. Et je précise, tu m'as reçu comme un des tiens à Abidjan.
Ouais, c'est vrai.
Il faut que je le précise. Merci Asalfo. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas?
Alors, je suis Salif Traoré à l'état civil. Et je suis connu sous le pseudonyme de Asalfo. Je suis membre du groupe Magic System, un groupe ivoirien qui a été découvert en France fin des années 90, début des années 2000. Et puis, après ça, on a fait tout le parcours que les gens connaissent aujourd'hui avec le titre qui nous a lancé, Premier Gaou. Et puis après, ça a suivi Bouger Bouger, Chéri Coco, Magic Indier, Zouglou Dance, la danse des magiciens.
Aïe, aïe, aïe. Hein? Ah, ça le faut. Ah, ouais. On va discuter aujourd'hui.
Hein. Tout ça.
On retrace le parcours ici. Donc ouais. Déjà... Mmh. Anou Mambo.
C'est ça.
Tu viens de là-bas.
C'est ça, exactement.
Comment il était le jeune Salif au début des années 80?
Ouais. Mais c'est un jeune insouciant. C'est... Vous savez, la jeunesse qu'on mène en Afrique, on ne demande pas grand-chose. Hein, mais on a cette joie de vivre là. C'est vrai qu'on n'était pas des familles. On n'était pas issus de familles riches. Mais on n'était pas. Non plus démunis de tout. Mm-hmm. Donc, à nos moments, on jouait au clair de lune comme tout le monde, on s'amusait comme tous les gamins, sans chaussures, sans habits, on courait dans les rues. Et puis, ça nous a forgé, ça nous a donné des valeurs. Voilà, parce que les vraies valeurs, c'est dans ce genre d'environnement-là qu'on les acquiert. Et puis après, on essaie de les utiliser au fil du temps. Et à nos moments, était pour nous... une école, c'était notre première université, c'était notre première grande école. Voilà.
Magnifique. Ouais. Mais Anou Mambo, c'est un village Djoula?
Non, c'est pas un village Djoula. C'est un village Ébrié. Mais comme nous y sommes tous nés, tous les membres du groupe Magic System sont nés à Anou Mambo, donc c'est notre village natal. Mm-hmm. Voilà.
Mais Anou Mambo, ça se situe à combien de kilomètres d'Abidjan?
Anou Mambo est dans Abidjan.
C'est dans Abidjan même?
C'est un village qui a la chance d'être Abidjan parce que les autochtones sont des Ébriers et tous les Ébriers ont leur village. Abidjan, déjà, c'est un gros village Ébrié, mais qui est parti de l'est à l'ouest, du sud au nord, qui est encadré par des villages, entouré par des villages Ébriés. Et Anou Mambo fait partie de ces villages-là, un petit village. Voilà.
D'accord. Parce que quand moi j'étais à Abidjan, on va y venir forcément, hein, mais je voyais sur les panneaux Anou Mambo. Et j'étais avec un frère à moi, et on se disait, ça c'est grâce à Asalfo, ça. Ouais. c'est vrai ou pas?
C'est vrai qu'avant, personne ne mettait l'accent sur ces petits villages. Mmh. Et Magic System, nous en avons fait notre combat. On s'est dit qu'il fallait quand même promouvoir ce petit village. Et c'est pourquoi dans toutes nos chansons, vous allez entendre quelque part, voilà. Comme d'habitude, on est calé, nous on vient d'Anou Mambo. Donc c'est toujours, voilà. Et quand les gens viennent à Abidjan aujourd'hui, ils veulent voir où est Anou Mambo, ou à Numambo, c'est devenu comme un petit site touristique. Et ça, c'est notre fierté, quoi. Voilà.
Plaisir à Salfo. Voilà. Et au niveau même de la fratrie, mm-hmm. vous êtes combien? 8 frères et sœurs, c'est ça?
7 frères et sœurs. On était 9, mais malheureusement, il y a eu des décès en route. Et là, on est resté 7 frères et sœurs. Voilà. Mm-hmm.
Mm-hmm. Et moi, je veux savoir, même à l'école, comment toi, t'étais?
Bouillant, turbulent, mais très bosseur, parce que j'ai eu quand même à me soucier de l'avenir, parce que quand on n'est pas issu d'une famille aisée, on cherche à mieux se positionner dans le futur. Donc, on a essayé, et puis bon, malheureusement, les moyens n'ont pas suivi, parce qu'après moi, j'ai voulu suivre des études de transitaire, et il n'y avait pas les moyens pour me payer la formation, et malheureusement, j'ai pas continué. Et puis bon, après, la musique qui était une passion est devenue un métier. Et je me suis concentré sur la musique.
Mais t'as arrêté en quelle classe, l'école?
Ah, en classe de terminale.
Terminale?
Oui.
Ok, très bien. Mmh. Et tu disais que la musique était une passion pour toi. Moi, je sais que ton frère Ali jouait de la guitare un
exactement.
Petit peu.
Exactement. Hey. Bah, ouais. Exactement.
C'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier?
Oui, il faut dire qu'il y a contribué beaucoup, parce que lui, il est musicien-guitariste. Et chaque fois que j'étais en plus, je dormais avec lui. Et chaque fois que je le trouvais en train de gratter sa guitare, j'avais envie de placer quelque chose quand même. Donc, mes premières compositions, c'était avec lui. Et puis, après, j'ai pris goût. Il faut dire qu'à la base, c'est le reggae que je voulais faire, parce qu'il y avait des messages. Ouais. C'était important de pouvoir véhiculer des messages importants, des messages universels. Et ben, voilà, donc c'était le reggae. Et puis bon... dans les lycées, on faisait le woyo. Le woyo, tout le monde sait que le woyo, c'est en langue bambara, c'est le brui. Donc, on faisait du brui comme on le dit. Et puis, c'est au fil du temps que ce woyo est devenu zouglou, un mouvement. Et le zouglou est ce qu'est le reggae en Jamaïque, ce qu'est le rap en France ou aux États-Unis, le raï au Maroc ou en Algérie. Voilà. Donc, pour nous, c'était aussi un bon canal pour faire passer les messages.
Mais le Zouglou, du coup, c'était une musique populaire de Djoula ou pas que?
Non. Ben, c'est ce qui fait la force. Ce qui a fait la force du Zouglou, qui est venu en 1990, c'est que le Zouglou n'appartenait à aucune région de la Côte d'Ivoire.
Okay.
Le Zouglou n'appartenait à aucune ethnie. Et le Zouglou pouvait être chanté dans toutes les langues. Donc, on pouvait chanter en baoulé, en gouro, en djoula, en bété, en tagbana. On pouvait chanter dans toutes les langues. Donc, c'était devenu une identité musicale qui n'appartenait à aucune région. Donc, tout le monde pouvait se l'approprier. Et c'est ce qui a fait la force du Zouglou, parce que c'était une musique fédératrice qui réunissait tout le monde. On pouvait chanter en djoula et danser en bété. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Et... tu sais, tu disais que l'école t'a été contraint de...
d'abandonner.
Et absolument.
Ouais.
À côté de ça, tu travaillais? Parce que la musique, dans un premier temps, même si tu voulais en faire ton métier, c'est difficile de se projeter.
Oui, c'est vrai. Mais c'est pas... au fait, vous savez, quand on dit travailler, c'est quelque chose de structuré et tout.
Oui.
Mais nous, on était dans des petits boulots, nous. Moi, je suis passé par tous les petits boulots, hein. J'ai pas honte de le dire, j'ai vendu des journaux à la criée, j'ai travaillé dans une boulangerie, j'ai ciré des chaussures, j'ai fait tous les petits boulots qui pouvaient permettre quand même de... c'est comment on appelle, hein, c'est... est-ce que je dois dire de la survie? Mais ce qui pouvait me permettre de m'en sortir. Parce que depuis tout jeune, j'ai pas voulu abandonner. J'ai voulu quand même avoir cette autonomie. Après, pour moi, après 18 ans, on ne court plus derrière les parents. On se cherche, comme on le dit à Abidjan. Et moi, j'ai fait tous les petits métiers qui pouvaient me permettre de m'en sortir. Et la musique est vraiment venue après, parce que c'est, voilà, c'est une passion qui est devenue un métier. Mais avant, on avait des petits boulots qu'on faisait. Voilà. Sans bonne rémunération. Voilà.
Et ça fait plaisir d'entendre ça, parce qu'on a besoin aussi de connaître l'historique.
C'est ça. Mais c'est... aujourd'hui, moi, je... notre histoire, personne, on ne va pas trafiquer notre histoire. Parce que quand on raconte notre histoire, c'est pour servir d'exemple à cette nouvelle génération qui est là pour dire que rien ne s'obtient facilement. Mais aussi, dans la vie, quand on avance avec des valeurs.
Oui.
Et nous, ces valeurs-là nous ont aidés, les valeurs de résilience, de persévérance, de détermination, parce que pour moi, c'est... Si il y a une grosse nuance entre ce qu'on appelle aujourd'hui la persévérance et la résilience. La persévérance, c'est savoir attendre et avoir en ayant foi à ce qu'on fait. Mais la résilience, c'est souvent de se croire à terre.
Ouais.
Et de pouvoir se relever et continuer. C'est, on était dans ça. Et ces valeurs-là, quand on vient dans des quartiers où, quand on mangeait une seule fois dans la journée, on avait déjà tout gagné. Parce que eux, on n'avait pas les trois repas par jour. Hein, tu vois. Et donc, c'était difficile. Mais on s'est dit, il fallait quand même le faire. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec le succès de Magic System, on n'hésite pas à regarder dans le rétroviseur. Pour voir, parce qu'il y a des gens comme nous qui sont encore dans les quartiers, qui se cherchent, qui ont besoin de repères. Et nous, on s'est dit, nous, on a connu cette souffrance-là aujourd'hui. On ne peut pas être à ce niveau-là, être des privilégiés, et puis ne pas avoir une pensée pour ces gens-là. Et c'est pourquoi, personne ne le savait, Magic System ici, pour les Français ou pour ceux qui vivent en France, c'est le groupe qui fait danser tout le monde, qui fait tout. Mais personne ne savait que Magic System, avec ses droits d'auteur, construisait des écoles pour des enfants en Afrique. Donc ça, c'était important pour nous de le faire. Et aujourd'hui, je crois que j'ai envie de dire qu'après le gouvernement ivoirien, s'il y a une structure qui construit des écoles, je dirais c'est nous. Parce qu'il y a plus de 10 écoles Magic System en Côte d'Ivoire qui permettent à près de 2500 à 3000 enfants d'aller à l'école dans des conditions confortables, sans payer un seul rond. Et c'est partout, dans toute la Côte d'Ivoire, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, au centre, on a mis des écoles partout. Et ça continue. Et moi, je dis ça, c'est des générosités qu'on fait avec fierté. Souvent, les cadeaux, les emballages des cadeaux, si on ne met pas de prix dessus, c'est parce qu'on veut que la personne sache que c'est avec le cœur et que le montant n'a pas d'importance. Voilà.
Merci, Asalfo. Il faut le dire, vous faites énormément. Ça, c'est une vérité absolue. Et... tu sais, même par rapport à Magic System, les quatre membres du groupe venaient d'Anoumambo.
Exact.
Moi, je veux savoir, tu sais, parce que tu es le leader et parfois, parfois, moi, c'est ce que j'aime dire, c'est que le statut de leader, soit il se prend, ou soit on lui donne le maillot numéro 10.
C'est ça, exactement.
Toi, c'était quoi la configuration? C'est les autres qui ont dit, hey, nous, on est derrière toi, tu es devant, ou c'est toi qui instinctivement est parti devant.
Non, mais au fait, vous commencez quelque chose ensemble sans savoir forcément ce que cette chose va devenir. Puisque quand on se connaissait, on était tout jeunes, on ne pensait pas être des artistes internationaux après. Mais il y avait déjà ces petits prérequis-là. Et puis j'ai la chance d'être quand même le grand frère du groupe. En termes d'âge, je venais en tant que l'aîné. Donc, avec ce qu'on faisait, avec tout ce qui pouvait se mettre en place, on trouvait que je prenais beaucoup des initiatives et les autres ont jugé que je pouvais porter ce groupe-là.
Donc, c'était d'un commun accord.
C'était d'un commun accord. Et puis, ce n'est pas à quatre. Hein. Magic System, au départ, on était près d'une trentaine de personnes. Ce n'est pas à quatre. Magic System, c'est près de 30 personnes. Et c'est depuis là que j'étais là, j'étais déjà le grand frère qu'on avait mis devant pour coordonner les choses. Après, à 30, on n'avait pas pensé à une carrière musicale, puisque j'ai bien dit qu'on faisait le woyo. Le woyo, c'est du bruit pour s'amuser. Hein. Personne ne savait que ça, c'est ce qui allait être notre avenir. Et donc, il y avait des étudiants qui ont continué les études. Il y a d'autres qui ont préféré aller dans leur métier et... tout le monde est parti jusqu'à ce que nous restions 8 personnes. Et à 8, à l'époque, aucun producteur ne va accepter de produire un groupe de 8 personnes parce que les taxis en Côte d'Ivoire, ça prend que 4 personnes. Donc, aucun producteur n'allait accepter de produire un groupe où il serait contraint de payer 2 taxis pour chaque émission et tout. Donc, il fallait scinder le groupe en deux. Et c'est comme ça qu'on a fait les magiciens à part et les marabouts à part. Les magiciens, c'est Magic System. Et les marabouts, c'est le groupe les marabouts qui sont restés à Abidjan. Et bon, la chance a plus souri de notre côté. à la sortie du premier Gaou. Et puis, on arrive en France début 2000 et l'aventure ne s'est plus arrêtée.
Mais c'est très bien, merci, patron. À Salfo, moi, je t'ai découvert, comme beaucoup de gens, au début des années 2000.
C'est ça.
Avec premier Gaou.
C'est ça.
Mais moi, je n'ai pas découvert la seconde version. Moi, c'était la version brute. Parce qu'à l'époque, les grands frères, etc., ils allaient à Château Rouge acheter des cassettes.
C'est ça.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y avait la version vraiment, ici on dit street, de la rue.
C'est ça. Avec un clip qui a été tourné à 300 euros. C'est ça.
Un sale faux. Moi, je veux savoir déjà, je veux que tu me parles de cette étape de ta vie où finalement les magiciens ne pouvaient plus se cacher.
Ouais. Mais au fait, il faut que les gens sachent aussi que il y a eu des obstacles, il y a eu des péripéties. Si la réussite de Magic System est une belle histoire aujourd'hui, c'est parce que derrière toute réussite, il y a des échecs et que les victoires sont plus belles quand il y a plus d'obstacles aussi. Et pour moi, avec Magic, tout est parti de rien pour être là, parce que c'était même pas évident que nous soyons là aujourd'hui. Je raconte toujours une histoire qui est une histoire qui met beaucoup de personnes dans des émotions, mais c'était pas gagné d'avance, parce que même pour aller en studio, on n'avait même pas le transport. Si je vous raconte l'histoire du premier Gaou, c'est grave, puisqu'on fait un album qui connaît pas de succès, puisque le premier album de Magic System, c'est pas Premier Gaou, c'était Papitou. Donc, l'album ne connaît pas de succès. Et vous savez très bien qu'en Afrique, quand tu fais un album qui connaît pas de succès, les producteurs ne se bousculent pas à la porte. Donc, c'est là encore, en tant qu'aîné du groupe, je prends l'initiative de dire, mais on va faire quand même une chanson pour essayer de présenter et nous actualiser. Donc, j'appelle à l'époque celui qui avait fait le premier album, qui est David Tairo, je l'appelle, je lui demande, mais est-ce qu'on peut venir en studio pour faire une chanson? On a une chanson qu'on veut faire, mais on n'a pas les moyens, est-ce qu'on peut venir en studio? Et ce dernier dit, oui, vous pouvez venir, mais il faut être là à 20h. Ben voilà. Mais à 20h, David Tairo est à Cocody, nous on est à Noumambo. Donc il fallait emprunter de l'argent avec des jeunes filles du quartier, chacune a donné un peu de pièces. Alors, on avait besoin de 1000 francs CFA. Ça fait même pas 1,50€. Donc, c'est ça qu'on prend pour aller en studio. Et on arrive en studio, il n'est pas là. Celui qui nous donne le rendez-vous, il n'est pas là. Elle dit, ben, c'est grave. Et moi, j'étais souffrant. J'étais mal en point. Et j'ai fait des efforts pour arriver, il n'est pas là. Donc, le gardien dit, il est rentré, donc il faut que vous rentrez. J'ai dit, mais je suis malade. Je ne peux pas. Laissez-moi me reposer avec mes gars ici. Moi, je vais dormir un peu. Et si le malaise descend, on va retourner chez nous. Et c'est là qu'on dort dans le garage là, du studio. Et Dieu aidant, ce producteur avait oublié la souris de son ordinateur au bureau. Il revenait chercher. Et c'est là qu'il nous trouve là. Il ouvre le portail, il nous trouve. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, tu nous avais donné un rendez-vous, on est venu. Bon, on est arrivé, on dit, tu n'es pas là. Ah, il dit, mais lui, il avait oublié quelque chose. Il dit, bon, on va descendre, on va faire quelque chose rapidement. Quand vous aurez le temps, vous allez revenir pour qu'on retravaille bien votre album, votre chanson. Donc, on descend. Et c'est cette nuit-là que je fais Premier Gaou. On ne l'a plus jamais retravaillé. Et il a fait le tour du monde. Donc, c'est le destin d'une chanson. La foi qu'on avait en cette chanson, la résilience qu'on avait, toutes ces valeurs-là nous ont permis, cette nuit-là, d'y aller. Et on ne savait même pas que cette nuit-là, on allait écrire l'une des chansons les plus populaires au monde. Mais on l'a faite. Parce qu'après, on n'a plus retouché cette chanson-là. La version que vous écoutez aujourd'hui, et la version qu'on a travaillée cette nuit où on est arrivé, où on n'avait pas de transport, où on a dormi dans le garage, où il n'y avait même pas de transport pour retourner chez nous. C'est cette chanson-là qui est sortie. Donc, il y avait un destin qui était là et c'est des valeurs qui nous ont amenés à aller faire cette chanson. On a cru.
Déjà, merci à Salfo. Ouais. Et comment le public a accueilli ce hit? Et là, je te parle des Ivoiriens dans un premier temps.
Ouais, mais les Ivoiriens, vous savez, les gens ils ne connaissaient pas Premier Gaou. Hein. Le jour quand on a joué Premier Gaou pour la première fois, c'était dans un petit maquis à Yopougon. Et ce qui m'a marqué, il y a une vieille dame qui vend du poisson de l'autre côté de la route qui traverse pour venir dire au DJ, la chanson que tu viens de jouer, s'il te plaît, est-ce que tu peux la rejouer? Je l'ai écoutée, elle est trop forte. Moi, ça m'a touché. Je vais la réécouter. Et comme ça, on rejoue la deuxième fois. On était allé pour faire la première partie d'artiste. On devait jouer avant que la guest arrive. Et toute la soirée a été faite avec cette musique. Donc, c'est parti de bouche à oreille qu'il y a une nouvelle chanson qui est sortie avec des jeunes qui viennent dans Mambo. Ça s'appelle Premier Gaou. Toute la nuit, on y a dansé et tout. Et après, tu as tous les propriétaires des restaurants, des bars et tout qui nous cherchaient parce que la chanson n'était pas sortie. On avait une cassette. À l'époque, c'était les cassettes. Il fallait que nous-mêmes, on vienne avec la cassette. On la joue et quand on finit, on nous remet la cassette pour repartir avec. Donc, personne. Donc, le maquis qui avait cette cassette me drainait du monde. Il suffisait de dire Magic System va venir ce soir ici. Tout le monde venait. Tout le monde, c'était Premier Gaou. Et on s'est dit, bon, écoute, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Je ne sais pas, c'est un phénomène. Mais après, entre le peu et le trop, il y a ce qu'on appelle la mesure. On va commencer déjà à retravailler nos valeurs. Les valeurs morales, on ne peut pas les changer. Parce que ce genre de succès, quand ça arrive, quand vous partez de zéro, de là où nous sommes partis, j'ai expliqué que vous arrivez à un certain niveau, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre la tête. Et les valeurs d'humilité, si vous les perdez, c'est fini. Vous n'avez plus les pieds sur terre. Donc, j'ai dit à mes gars, nos valeurs morales, les valeurs qu'on a eues à Noumambo, ce sont ces valeurs-là qui doivent rester pour que nous continuions notre chemin. Mais là, on n'avait même pas encore la carrière internationale. Et après, tu arrives ici. Un an après, tu fais un Zénith. Après, tu fais un Olympia. Après, tu es dans toutes les radios, jamais vues. Tu es dans toutes les radios françaises. Tous les médias vous sollicitent. Vous êtes un peu partout. À l'époque, l'émission qui était la plus regardée en France, c'était la Star Academy. Ouais. Vous faites la demi-finale de la Star Academy avec Nolwenn Houssine et tout ça. Et tu te dis, c'est quand même un peu plus rapide que ce qui était prévu. On s'est dit, le succès est arrivé plus vite qu'on l'avait espéré parce qu'on a cru que ça allait mettre du temps. Et dès 2001-2002, Magic System, c'était déjà un phénomène en France, mais on a gardé les mêmes valeurs. Et c'est d'ailleurs, ce sont ces valeurs-là qui nous ont servi pour que nous restions près de 30 ans ensemble, sans séparation. Ce sont les mêmes membres du groupe, parce que l'argent et le succès sont les deux bases, souvent, de la séparation d'un groupe. Et nous, le succès, on l'a connu. On est parti des quartiers pauvres, des faubourgs abidjanais pour les palais parisiens, on est parti des petits taxis de quartier pour des business class sur Air France, sur des avions et tout. Mais la seule chose qui n'a pas changé, c'est la valeur morale. Et elle est restée là jusqu'à aujourd'hui. Les valeurs de fraternité, nous les avons cultivées. Et je mets au défi tout groupe de 4 personnes qui peut partir de rien à avoir tout ce qu'on a eu comme succès financier, succès médiatique, succès en image, et ne pas se séparer. Mais bon, c'est pourquoi j'ai dit à Noumambo a été une école qui nous a permis d'acquérir pas mal de choses. Et Dieu merci, aujourd'hui, on est encore ensemble et j'espère que ça va être pour toujours.
Dieu merci. Voilà. En tout cas, vraiment, frérot, ça fait du bien. Et en plus, moi, je peux témoigner de ça parce que là-bas, je t'ai vu avec Manaja.
Ah ouais.
Exactement. Vous étiez comme ça.
Exactement.
C'est beau, Asalfo, ce que tu dis. Et tu sais, tout à l'heure, quand je te disais la première version du clip, Premier Gaou, mais il y avait la deuxième.
Oui.
Moi, et arrête-moi si je me trompe, c'est Marc Lavoine qui a produit le clip?
Non.
Pas du tout.
Pas du tout.
D'accord. Ouais. Mais en tout cas, c'était des bruits qui couraient ici.
Ouais, non. C'est pas Marc Lavoine, c'est c'était Next Music à l'époque. Et c'est d'ailleurs notre première histoire avec Booba et Sayan Soupakrou, ça commence là. Puisqu'on arrive en France, personne ne nous connaît et tout. Et on nous dit, le clip qu'on a fait à Abidjan ne peut pas rentrer dans un média ici.
Pourquoi?
Ben oui, c'est... J'ai dit qu'il a été financé à 300 euros, donc il faut imaginer la qualité du clip. Voilà. Donc ça pouvait pas, il fallait reprendre le clip. Et là, on reprend le clip et tu as Booba qui accepte de jouer dans le clip.
Ouais.
Tu as Sayan Soupakrou. Et quand je vous parle des années 2000, vous savez ce qui était quand même Booba et Sayan, c'était déjà de gros calibre. Et accepter de venir figurer dans un clip... d'un groupe africain qui venait d'arriver de nulle part. C'était déjà un coup de pouce pour nous. Et bon, à l'époque, on avait notre ami aussi, Olivier Capot, qui jouait à Auxerre,
ouais.
Qui vient. Donc, on avait nos people quand même dans nos clips. Et puis bon, comme c'est une musique qui devait toucher tout le monde, on a mis tout le monde dans le clip. Hein. On a mis des Africains, des Rebeux, des Chinois, de tout le monde. Et parce que c'était une musique fédératrice, et voilà, donc c'est... Ça donnait même, je sais pourquoi tu mets l'accent sur le premier clip, parce que c'est ce qui nous identifie, nous.
Ouais, c'est vrai.
J'ai pas... L'autre clip était beaucoup commercial, mais le premier, si, pour ceux qui vont, qui regardent le podcast aujourd'hui, ils peuvent repartir sur le premier clip de Magic System, ils verront que dedans, on n'est pas des acteurs. C'est vraiment ce que nous ressentions qui a mis à travers ce clip. La voiture que je poursuis, la chaussure qui part en l'air et tout ça. Rien, ce n'est pas un scénario. On l'a fait avec le cœur. Et c'est... Aujourd'hui, quand je regarde ça avec mes enfants, ça me fait plaisir.
Ouais. Ça le faut. Et ouais. Tu sais, voilà, là, c'était, si tu veux, la première pierre, j'ai envie de te dire, un premier gaou, etc. Mais ouais. Après, c'était hit sur hit. Il y avait Poisson ouais. D'Afrique. Hey, moi, j'aime beaucoup les magiciens.
Hein. Ben oui, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir.
Et voilà, hit sur hit. Donc forcément, tout à l'heure, tu disais que tu étais un modeste citoyen d'Anoumombo.
Ouais.
Là, ta vie a littéralement changé. Exact. Parce qu'il y a eu des revenus,
ouais.
Des revenus conséquents.
Ouais.
Moi, je veux savoir comment toi, tu as fait. Parce que, et c'est très bien même, tu as des valeurs morales, ouais. Tu as des valeurs religieuses, mmh. De fraternité qui font que tu as toujours eu les pieds sur terre.
C'est ça, exactement.
Mais mmh. Avoir tout cet argent, de passer de rien à tout...
Mmh.
En presque une fraction de seconde, ça peut aussi faire vriller.
Oui.
Il y a aussi peut-être l'aspect familial qui peut être compliqué aussi par moment.
Oui. Ben, en Afrique, vous savez, on dit que quand vous allez à la chasse et que vous tuez un éléphant, c'est pour tout le village. Mais quand l'éléphant vous tue, c'est le deuil de votre famille seule. Et pour moi, c'est... On vient des quartiers pauvres. J'ai dit au gars, bon... Cette fois-ci, on parle en euros. On n'est plus dans des devises des CFA et tout. Ça perd la tête. Mais quand on a la lucidité, on prend du recul et on se dit, bon, il y a des choses qu'il faut faire. Parce que dans nos chansons, nous-mêmes, nous donnons des conseils aux gens et tout. Donc, tout de suite, il fallait investir dans des choses parce que le métier d'artiste, c'est un métier qui a des bas et des hauts.
Ouais.
Il y a des saisons hautes et il y a des saisons basses. Et donc, il fallait préparer le jour où ça n'allait pas. Bon, Dieu a permis que quand même on soit dans une longévité. C'est quand même 30 ans de succès. Et on a essayé d'investir dans ce qui pouvait être dans la pérennité. Donc, pour nous, l'immobilier était important. C'est vrai qu'on a commencé avec le transport. Et puis, on est rentré dans l'immobilier. Avoir un abri, avoir un toit, c'est déjà la première des choses. Et puis après, j'ai commencé aussi quand même à dire, il faut préparer un jour son retour à Abidjan. J'apprends, je vais dans des festivals, j'apprends, je regarde comment le monde du showbiz fonctionne ici.
Ouais, ouais.
Parce qu'après, il faut essayer de partager cette expérience avec son pays. Parce qu'on a vu qu'ici, c'était vraiment en avance. Et c'est comme ça que En 2008, je décide de créer Gaou Production, voilà, qui va être le relais entre ce que nous avons appris ici et ce que nous voulons donner à l'Afrique.
Et comment toi t'as fait pour rester intègre et garder tes valeurs? Parce que tu sais, quand un Africain arrive dans une maison de disques, le message peut aussi être policé. Tu vois ce que je veux dire? Là, toi, quand tu chantes, il y a beaucoup d'argot, il y a beaucoup de trucs, et c'est ce qui fait ta force, tu sais. Petite anecdote, moi, en 2003, j'étais au ski, et il y avait des petits, il y avait des jeunes que je ne connaissais pas. Moi-même, j'étais jeune à l'époque, ou du moins plus jeune qu'aujourd'hui.
Ouais.
Et il y avait des jeunes qui ressemblaient pas à des enfants d'Anoumambo.
Tu vois, c'est ça.
Comprends?
Ouais.
Et ils étaient en train de chanter par cœur les paroles de Premier Gaou, etc. Et moi, ça m'avait fait rire, tu vois, parce que tu étais rentré dans leur foyer.
Ouais.
Et si je te pose cette question, c'est que quand tu rentres généralement dans un business, le discours peut être, dilué.
C'est ça. Oui, parce que quand tu rentres dans une major, les majors essayent toujours de réadapter notre musique aux attentes. C'est vrai que quand tu arrives dans un environnement, tu essaies de t'adapter à cet environnement. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois tourner complètement le dos à ce que tu faisais.
Exact.
Donc, on a su équilibrer entre ce qu'on pouvait faire ici et ce qu'on pouvait faire en Afrique. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on avait deux oreilles qui nous écoutaient. Il y avait l'oreille occidentale avec le rythme en France et tout. Et puis, il y avait l'oreille... au niveau de l'Afrique aussi, qui était plutôt porté sur les messages que nous mettions dans nos chansons. Donc, par le moment, on pouvait faire bouger ici pour faire danser tout le monde. Mais quand on arrivait en Afrique, on allait chanter, par exemple, Aventurier, on allait chanter peut-être Sagacité, on allait chanter pas mal de choses qui pouvaient être des messages importants pour les jeunes Africains. Donc, on avait deux publics. On avait un public ici qui voyait Magic System qui vient pour mettre l'ambiance, pour faire le show. Et on avait un public qui est Magic System, des grands frères qui donnent des conseils à travers leurs chansons. C'est une jeunesse qui nous écoutait beaucoup. Et donc, on a dit à la maison de disques, voilà, on est obligé de faire avec. On ne peut pas nous transformer entièrement à faire ce qui va marcher. C'est vrai que la musique, elle peut être commerciale, mais aussi, il y a ces valeurs-là. Et nous, on est attachés à nos racines. Mmh. Voilà. Nous, notre embryon, nous avons laissé nos embryons au niveau d'Abidjan. Et il faut qu'on reste attaché à nos racines. Et ces embryons-là, il faut les retrouver pour pouvoir rester fidèles à nos sources. Donc, l'intégrité était là, quoi.
Et tu sais, il y a un adage qui dit que la puissance ne respecte que la puissance.
C'est ça.
Tu confirmes ça?
Je suis entièrement d'accord avec ça. Mm-hmm. Si tu ne peux pas convaincre les gens, si tu ne peux pas convaincre les gens avec ta vision, si tu ne peux pas arriver à imposer tes valeurs aux autres, mais il n'y a pas de raison de vouloir faire des trucs, tu vas être prostitué à tout moment. Parce que c'est un peu ça. Tu as ta vision, tu dis je respecte ta vision, mais s'il te plaît, respecte la mienne. On est dans un dialogue, on n'est pas dans un monologue. Et puis, dans la coopération, comme on le dit, quand une coopération est bilatérale, on s'entend mieux. Mais quand elle est unilatérale, l'autre finit par être frustré. Et nous, on a compris ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait plus de 20 ans en major. C'est pas évident. Les majors, on vous prend, après, quand ça marche plus, on vous lâche. Mais nous, c'est nous-mêmes qui avons demandé à notre major de nous laisser partir. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se dire qu'on a envie d'évoluer et puis on ne peut pas être autonome. Donc, on peut se produire. Nos moyens aujourd'hui nous permettent de nous produire. Donc, laissez-nous aller et nous produire, être nos propres producteurs.
Mm-hmm.
Voilà.
Il y avait une vision du business qui était déjà très établie.
Exactement, il fallait. Mm-hmm. Il le fallait.
Mais parallèlement à tout ça, tu sais, le point culminant de ta carrière, c'est le social. Tu sais, il y a le FEMUA que t'organises avec tes frères aussi.
Oui.
Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est? Parce que tu sais, pour finir ma question à rallonge, c'est que nous, on a reçu Soprano, on a reçu Black M, et ils te citaient constamment en exemple en disant que la personne qui les avait inspirés, c'était Asalfo. Mm-hmm. Asalfo, Asalfo. Donc, dis-moi tout, s'il te plaît.
Je suis content quand même parce que c'est... Ce sont des références. Quand je les invitais au FEMUA, je ne savais pas que le FEMUA allait avoir un effet, un impact, parce qu'ils sont venus. effectivement, ce n'est pas à leur cachet habituel qu'ils viennent. Hein. Ils sont venus vraiment pour le côté social et ils en ont pris de la graine, si je peux m'exprimer ainsi. Le FEMUA, c'est le fest. D'abord, FEMUA, ça veut dire Festival de musique urbaine d'Anoumambo. Voilà. Mais c'est venu d'un fait. Bon, on va dans un festival dans le fin fond de la France et on arrive généralement. Quand vous arrivez, vous êtes artiste, on vous met en VIP, c'est de grosses voitures qui viennent vous chercher. Et nous, on nous met dans une Twingo, quoi. C'est-à-dire, avec une nourrice, avec un fauteuil bébé devant et tout. Et moi, je suis tout énervé, hein. J'ai dit, mais.
Ah ouais.
Un peu de respect, on peut pas venir chercher des artistes. Ben, c'est dans le cœur, je le dis, parce que la pauvre dame, il y a quand même du respect pour elle. Mais après, je veux être curieux de savoir, mais pourquoi c'est elle qui doit venir nous chercher? Et en plus, apparemment, elle doit avoir un bébé et tout ça. Donc, tout gentiment, je dis, madame, excusez-moi, pourquoi c'est vous qui êtes venu nous chercher? Et elle me dit, écoutez, on fait un petit festival dans notre village. Nous, on n'a pas les moyens. Il paraît que le cachet des Magic System a déjà pris tout le budget. Donc, chacun essaie d'apporter sa contribution pour qu'on réduise les poches de dépenses. Donc, je me suis proposé comme chauffeur parce qu'on pouvait pas louer une voiture. On pouvait donc, chacun donne ce qu'il peut. Vous allez voir, arriver au village, vous allez voir, c'est, la cuisine est faite par les gars du village, tout est fait. Donc, ça m'a inspiré. J'ai dit, mais écoute, donc, dans un village, si tout le monde se donne la main, on peut réaliser de grands événements. Donc, j'ai dit, ben, écoute, j'appelle mes trois gars, j'ai dit, dès qu'on arrive à Noumambo, appelons des gars à Noumambo. Chacun va donner le meilleur de lui-même. Et on va faire la même chose, on va faire ce festival à Noumambo. Et on arrive, on fait une première édition. Il n'y a pas de sponsor, parce que c'est dans un village quand même. Les gros sponsors ne viendront pas. On fait jusqu'à 3 éditions. Et à la 3e édition, on décide d'offrir une école avec nos droits d'auteur. C'est comme ça que les sponsors ont commencé à croire et avoir une vision. Parce que pour moi, c'était d'envoyer toutes les grosses sommités de la musique mondiale dans un petit village avec un décor, des folies bergères, des solides et de tout, dans ce petit village. Et on est arrivé à le faire. Et Anoumambo devenait le centre musical de l'Afrique pendant un moment. Toute la lumière, toute l'Afrique était braquée parce que toutes les grosses sommités du continent africain venaient jouer dans ce petit village. Et on a maintenu ce festival aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire que nous sommes à la 16e édition de ce festival qui est devenu un événement incontournable pour tous les féries de musique. Donc, le FEMUA est devenu aujourd'hui la Coupe d'Afrique des Nations, en un mot, de la musique, quoi. On s'amuse à le dire souvent, mais c'est réellement vrai parce que c'est une plateforme qui permet à tous les artistes africains de se retrouver chaque année.
Et c'est tout à ton honneur, frère. C'est tout à ton honneur. Et tu sais, déjà, c'est quoi les retours que tu as par rapport à toutes ces actions liées au social là-bas? Moi, je voyais les gens t'appeler Papa Salfo. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que déjà, c'est pas un costume qui est trop lourd à porter?
C'est lourd. C'est lourd. Et puis, vous savez, en même temps, plus vous êtes à la lumière, plus vous créez un forum de détracteurs. À côté. Mais vous prenez des coups, mais ce sont ces coups-là qui vous amènent à vous dire que vous êtes arrivé à un niveau où peut-être que vous ne savez pas où vous êtes, mais votre statut est en train de vous montrer que vous êtes en train de réaliser quelque chose à laquelle vous n'avez jamais pensé. Oui. Vous prenez des coups. Il y a des mauvais jugements. Vos détracteurs chercheront souvent à vous faire tomber parce que c'est pas bien de s'attirer toutes les lumières comme ça, alors que vous ne le faites pas exprès. Et vous savez, le fait de dire Magic System, ou Asalfo, 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 ça suscite souvent, je dirais pas de jalousie, moi j'aime pas employer ce terme, mais ça suscite souvent de la rancune inutile, de la rancœur inutile, des choses qui n'ont pas le droit d'être. Et ces mauvais coups deviennent des choses qui peuvent vous empêcher. Quand vous venez de nulle part, il n'y a pas de problème. Mais là, quand vous commencez à vous affirmer, il y a des choses qui vont arriver et sans vous rendre compte, vous devenez la poubelle de tout. Et tout se déverse sur vous. Mais vous devez accepter parce que moi, je suis croyant. Quand Dieu vous permet d'arriver à un certain niveau, il vous donne la carapace pour supporter tous les coups qu'on vous envoie. Donc, c'est cette carapace-là. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent nous croiser en route pour dire, mais Asalfo, comment vous faites pour résister à toutes ces méchancetés qui sont dites, à toutes ces choses que les gens peuvent dire de vous et tout? Comment vous faites pour résister? Je dis, moi, je ne sais pas comment je fais. Mais je crois que c'est Dieu qui me donne la sagesse de m'éloigner des émotions pour être focus sur mes objectifs. Et c'est ce qui me fait avancer. Voilà.
C'est fort, Asalfo. Et t'as pas peur quand même de la récupération politique?
Oui. Ben, la récupération politique, il y en a à tous les niveaux. Mais tant que cette récupération politique peut profiter aux populations, ben, on y va parce que l'objectif, c'est le bien-être des populations. Dans nos manifestations aujourd'hui, quand vous arrivez à une cérémonie d'ouverture du FEMUA, l'année dernière, par exemple, on avait 12 ministres. Et donc, c'est comme le salon de l'agriculture.
OK.
Il faut que les autorités partent à ce salon-là pour écouter aussi ce que le peuple attend d'eux. Donc, nous, on crée une plateforme qui amène ces autorités vers les populations pour que ces autorités entendent, parce qu'il y a des gens qui viennent lire des doléances. Voilà ce qu'on veut et tout. Donc aujourd'hui, créer une plateforme où on devient la bouche et l'oreille du peuple pour que les gens entendent, mais je crois que c'est un rôle de courroie de transmission que nous jouons. Et pour moi, tout va ensemble. Vous ne pouvez pas monter ce genre de projet s'il n'y a pas de volonté politique qui vous accompagne.
Ok.
Donc la volonté politique y est. Après, c'est vous qui regardez comment est-ce que vous équilibrez les choses. Parce que si vous faites ça dans une vision électoraliste ou dans des manipulations pour pouvoir faire, à un moment donné, vous trahissez vous-même votre pensée et après, vous n'êtes plus en adéquation avec votre conscience. Donc, je reste vraiment en adéquation avec ma conscience. Ça.
Et sans transition, comment toi tu vois le fait, déjà, comment tu vois le changement de la Côte d'Ivoire? Parce que, encore une fois, là, moi, même j'ai eu la chance de m'y rendre il y a un mois, j'ai vu de belles installations, j'ai vu un peuple content, même de présenter le pays au monde entier, hein, même, hein, tu vois. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que Ado était rentré sur le terrain et j'ai vu
tout un peuple crier.
T'as tout compris.
Oui.
Que ce soit les Baoulés,
oui.
Les Djoulas, les Bétés, tu vois. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait frappé parce que voir au 21e siècle...
Un président qui fait l'unanimité, voir tout le monde réuni pour chanter le nom de quelqu'un, c'est... Tu sais, moi, j'ai pas l'habitude de vanter les hommes politiques parce qu'après, ça ressemble à une campagne de propagande.
Ouais.
Mais souvent, quand les choses sont là, il faut le dire clairement. Le président Ado, il est arrivé au pouvoir en 2010, disons 2011. Mais depuis lors, tous ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire ont vu une transformation, mais je ne sais pas comment définir. Même nous qui sommes à Abidjan, avons vu des choses, des routes s'ouvrir du jour au lendemain, sans savoir que dans ces endroits, il pouvait avoir des routes. Donc, c'est un président qui est venu avec une vision. Et nous avons essayé aussi avec notre art de l'accompagner aussi dans cette vision. Et il n'a pas déçu le peuple. Vous avez vu l'événement qu'il a offert au peuple de Côte d'Ivoire. Comment vous ne voulez pas que dans un stade, tout le monde se réunisse pour chanter son nom? Parce qu'il faut quelqu'un qui ait vraiment cette conscience de donner une image, de permettre à son peuple de vivre dans la cohésion. Parce que cette canne que vous avez vue a permis même à des ennemis de faire des accolades dans les tribunes. Et c'est la volonté d'un président. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. on ne parle pas politique, c'est vrai, on va parler de... Mais aujourd'hui, c'est une Côte d'Ivoire unie. Quand on jouait contre un pays, il y avait toute une Côte d'Ivoire unie pour ça. Donc ça aussi, c'est la vision du président de la République que nous ne cesserons jamais de saluer. Et chaque fois que l'occasion me permet de le croiser dans une cérémonie ou quelque part, je n'hésite pas à lui dire, président, vraiment merci pour tout. Parce que c'est ceux qui ont connu la Côte d'Ivoire d'avant et qui connaissent la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que c'est l'un des plus beaux pays d'Afrique. Donc, tu es venu, tu as vu tout ce qu'il y avait à Abidjan. Ben oui, écoute, c'est pas toi seul qui es surpris. Même les Ivoiriens sont surpris aussi.
Et là, il y a une réelle union entre tous les peuples, toutes les ethnies en Côte d'Ivoire.
Oui. Et ça, c'est pourquoi on est content. Parce qu'on a toujours œuvré pour ça. La paix et la cohésion sociale. C'était ça. Parce que notre pays était divisé. Nous avons une grosse jeunesse politisée. Et à un moment donné, on parlait plus de politique que de football. On parlait que de politique que de politique. Alors que la politique est souvent source de division. Pour une fois, pendant un mois, on a parlé de foot. Et ça a resserré le lien de tous les Ivoiriens. Et même si c'est pour un moment, mais c'est déjà bon qu'on puisse se reparler à nouveau, qu'on puisse courir dans les rues ensemble, qu'on puisse trinquer ensemble à la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est une vraie politique.
Tu sais, pendant quelques temps, toi, tu étais établi en France où tu menais ta carrière d'une main de maître, hein, je précise. Pourquoi avoir décidé de rentrer?
Parce que c'est important. L'Afrique ne doit pas se vider de ses cerveaux. L'Afrique a besoin de nous. Nous qui avons eu la chance de sortir, de voyager, d'acquérir des expériences, c'est pas acquérir ces expériences et rester là. Parce que c'est en retournant que nous donnons cette force-là à l'Afrique. Donc la diaspora africaine devient aujourd'hui une force pour cette Afrique. Et moi, j'ai voulu faire partie de cette diaspora afro-optimiste qui se dit tout est possible et que si on rentre et qu'on met le peu de savoir qu'on a au service de l'Afrique, ça peut aller. Donc, il y a des footballeurs qui sont rentrés pour faire des centres de formation. Nous sommes des artistes, nous sommes rentrés et nous avons réorganisé le milieu des industries culturelles et créatives. On a mis des festivals, des plateformes de diffusion. Et ainsi de suite, les ingénieurs vont rentrer pour construire des ponts et chaussées. Les docteurs, les médecins vont rentrer pour que le plateau technique médical soit encore plus bien, qu'on ait des spécialistes qui vont s'occuper des gens qui n'auront plus besoin de prendre un visa pour venir se soigner dans des hôpitaux ici. Chacun dans son secteur d'activité rentre pour apporter. Et moi, j'ai pensé à un moment donné que j'avais tellement emmagasiné que je voulais quand même redonner un peu à l'Afrique. Et c'est ce que j'ai fait avec le groupe Magic System. Et nous sommes très, très fiers aujourd'hui. Voilà.
Tu as deux plateaux?
Deux plateaux. Comme on le dit, dans nous mambo, deux plateaux. C'est pas pour faire de la rime, hein, mais c'est vraiment c'est un trajet avec des valeurs.
T'as bossé.
C'est 50 minutes, disons 30 minutes en voiture, mais c'est 30 années en termes de démarche.
Tu mérites tout ce que t'as, sale
voilà.
Faux.
Voilà.
Tu sais, moi-même, comme tu sais, je suis parrain d'une association dans le médico-social, la FFBS, qui s'occupe de personnes en situation de handicap. Ouais. Et quand on s'est vu là-bas, on peut le dire ici, on parle de tout. Tu vois ce que je veux dire? On est en train de parler de social. Hein, et tu es venu, tu m'as dit, je t'encourage et je vais travailler avec toi.
C'est ça.
Mais il ne faut pas aussi que tu oublies l'Afrique. Est-ce que tu sais où je pourrais trouver des chaises roulantes?
Ouais, c'est ça.
Tu vois? Et en fait, moi, ça m'a marqué parce que toi, avec ton statut et tes relations, tu sais quelle porte frapper.
C'est ça.
Mais tu m'as demandé quand même.
C'est ça. C'est ça parce que à tout niveau, on a besoin des gens à tout niveau pour pouvoir avancer. On a besoin des gens à tout niveau. Moi, tu vis en France, tu peux avoir des entrées, tu peux avoir des choses que peut-être nous, on tournera pour... Il y a des ministres aussi qui nous appellent souvent pour des choses où, avec un coup de fil, ils peuvent régler. Mais c'est comme ça. C'est, la vie est faite ainsi. Et quelqu'un disait que même quand on est quand on sort du ventre de sa maman, on a besoin de la main d'une sage-femme pour se prendre déjà. Et quand on meurt aussi, on a besoin de quelqu'un pour vous attraper, pour vous amener à la tombe.
Exactement.
Donc, la vie est faite de ça, de mains tendues, des gens qui rentrent et qui vous aident. Et moi, toute occasion qui se présente à moi, je n'hésiterai pas à demander. Même des couches de bébés que je peux acheter, je vais les demander. Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Voilà. Voilà.
Merci pour cette leçon d'humilité à Salfo. Et hey, tu nous fais du bien, ma parole à Salfo. Non, vraiment, vraiment. Et tu sais, toi aujourd'hui, t'es marié, t'as des enfants.
C'est bien de se marier. C'est bien d'avoir... Le mariage est quelque chose qui nous stabilise. Ça nous met bien. Et si vous remarquez, toutes les grosses stars, tous ceux qui se sont mariés tôt sont ceux qui ont pu organiser leur vie. Parce que quand il y a ce mariage, ça t'amène à dire, tiens, j'ai des responsabilités. Tiens, je ne m'appartiens plus à moi seul. J'ai une femme, j'ai des enfants à la maison. Leur avenir dépend de moi. Donc, ça t'amène consciemment à toi-même rééquilibrer ta position. Et moi, je me suis marié en 2007, quand j'ai compris que ma carrière allait prendre une tournure. Parce que si j'attendais jusqu'en 2020 pour me marier, je ne suis pas sûr que je serais lui à ça. Il faut que vous interviewez aujourd'hui.
En plus, Antou est couru après.
Avec ce qu'Antou a fait, non, c'est une leçon.
Non, t'as raison à Salfo. Et merci. Et je te jure que ça nous fait du bien de t'entendre comme ça, Salfo.
Ouais.
Et tu sais, à l'époque, on voyait des gens, même nous, on a de la famille au Sénégal, hein, entre autres, etc. Et quand les enfants voulaient poursuivre des études, ils venaient en Europe, ils allaient aux États-Unis, ils allaient au Canada. Aujourd'hui, est-ce que la donne a changé? Est-ce que la Côte d'Ivoire, justement, peut rivaliser avec les pays que je viens de te citer?
Ben, la Côte d'Ivoire est devenue un centre, c'est devenu un tournant, c'est devenu un hub pour toute cette région de l'Afrique. Aujourd'hui, en termes de maternité mère-enfant, par exemple, je dirais qu'on n'a plus besoin de venir à Necker, ici.
OK.
On a un Necker chez nous, à Abidjan, avec l'hôpital mère-enfant que le gala de la première dame a permis de construire, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara Benjerville, qui aujourd'hui, quand vous rentrez, moi je suis allé faire visiter cet hôpital à Michel Drucker, qui disait que cet hôpital n'avait rien à envier à un hôpital en Europe. Donc ça aussi, c'est la révolution de l'Afrique. Sortons de là, allons-y récemment. Quand vous regardez les stades en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations, même une Coupe du Monde peut se jouer dans ces stades. Donc, c'est des infrastructures que l'Afrique n'avait pas. Aujourd'hui, l'évolution fait que l'Afrique a envie de se mettre au diapason des autres nations. Dans le concert des nations, nous devons tous jouer notre musique. Et l'Afrique va jouer, mais sans les bras vaillants de ses enfants, cette Afrique-là ne peut pas se réveiller. Regardez aujourd'hui cette révolution qui est en train de se faire, la révolution numérique. La révolution électronique. On parle aujourd'hui de ChatGPT. Donc, rien ne va nous devancer. On va rester en Afrique. Mais on est au même niveau d'information que les autres. On a des cerveaux. On a des experts. C'est pourquoi j'encourage toujours le partage d'expériences, la formation continue, parce que c'est dans ça. Nous sommes un continent croissant. Nous avons été longtemps derniers. Aujourd'hui, nous voulons être premiers parce que tout le monde a pris conscience que le continent qui a une marge en termes de développement et de croissance, c'est l'Afrique. Et nous serons là, nous allons jouer notre rôle. L'Afrique doit prendre la tête du peloton parce que nous avons des richesses humaines, des ressources minières, des ressources agricoles qui peuvent permettre à notre Afrique d'évoluer.
Et même au niveau des écoles, c'est le même son de cloche?
C'est le même son de cloche. C'est au niveau des écoles aujourd'hui, c'est vrai qu'un enfant en Europe ne va pas à l'école dans les mêmes conditions qu'un enfant en Afrique, parce qu'on n'a pas la même cartographie, c'est pas les mêmes moyens et tout. Mais aujourd'hui, Un exemple, la Côte d'Ivoire, l'école est devenue obligatoire en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le signe de développement. Ouais, l'indice de développement d'un pays se trouve dans sa sécurité, sa santé et son éducation. Si tu as un peuple bien éduqué, qui est en bonne santé et qui est dans des conditions de paix, de cohésion, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de développement. Totalement. Donc aujourd'hui, l'Afrique est en train de miser dans... C'est pourquoi notre démocratie aussi en Afrique est en train d'évoluer, vous voyez. On ne donne plus un t-shirt à quelqu'un pour aller voter. Les gens votent maintenant avec leur idéologie, avec un programme bien défini. Et c'est ça, l'éveil et le réveil de l'Afrique.
Et toi, aujourd'hui, tu es un homme aguerri, un homme accompli. Pourquoi avoir décidé de reprendre tes études?
Mais c'est pourquoi la formation continue. Tu as ton portable. Je sais que quand tu vas sortir de l'émission tout à l'heure, ouais, tu vas regarder, tu as des applications qu'on te demande de mettre à jour.
Absolument.
Mais ceux qui ont fabriqué ces applications pouvaient les fabriquer et puis dire, bon, c'est fini, tu as payé, tu as payé. Mais non, parce qu'un homme a besoin de se mettre à jour. J'ai jugé à un moment donné que j'avais besoin de repartir à l'école, même si la vie m'avait permis de connaître beaucoup de choses. Il y avait des connaissances académiques qui pouvaient me permettre, dans mon secteur d'activité, de mener à bien mon métier. Il y a des, aujourd'hui, pour être un entrepreneur culturel, on a besoin de prérequis académiques aussi. On a besoin de choses. Je suis allé à HEC pour aller passer un master, mais un master... Mais c'est spécialisé parce que je voulais apporter une solution à la problématique des droits d'auteur en Afrique.
Ok.
Donc, je vais soutenir un master, je vais faire une thèse qui va permettre aujourd'hui la récupération automatisée et l'identification des œuvres des artistes pour que les répartitions soient justes. Parce qu'une chose est de recouvrer l'argent des artistes en Afrique, mais généralement, on n'a pas de base de données pour pouvoir les répartir. Donc, il y a une répartition injuste. Et pour moi, je suis allé à l'école, j'ai trouvé cette solution que je suis en train de mettre en place pour toutes les maisons de droits d'auteur en Afrique, pour les OGC, les organismes de gestion collective. Et ça va permettre désormais à l'auteur-compositeur de vivre de ses droits, de mériter ce qu'il a produit. Or, avant, c'était pas le cas. Mais c'est dû à quoi? Dû à cette formation continue que je suis allé faire à HEC. On reste pas dans la rue pour faire ce genre de choses. On a besoin de se former et j'ai pas regretté d'aller de retourner à l'école pour avoir ce diplôme. Voilà.
Eh ben, ce sera le mot de la fin, Asalfo. Ouais. Asalfo.
Oui.
Au nom de toute l'équipe de WSL, sincèrement, nous te remercions.
Merci, Elaj.
Pour ta venue, je te jure, tu nous fais du bien, Asalfo.
Mais Elaj, merci beaucoup aussi à vous, parce que, au fait, ce que vous faites, c'est, quand je dis vous, c'est toi et toutes tes bien équipes, sûr, parce qu'on se tutoie.
Bien sûr.
Mais parce que ce que vous faites aujourd'hui participe du développement de l'Afrique. Il y a des années en arrière, on ne pouvait pas s'asseoir pour parler de projets en Afrique et tout ça comme ça, surtout venant de la diaspora.
Exact.
La diaspora croyait qu'elle était d'ici et qu'elle ne pouvait pas repartir en Afrique et tout. On nous appelait les blédards quand on arrivait ici. Mais aujourd'hui, voir cette diaspora, j'ai vu cette diaspora, la déferlante de cette diaspora en Côte d'Ivoire pendant la Coupe d'Afrique des Nations, des gens qui s'appropriaient l'Afrique, qui étaient fiers de revenir en Afrique. Je me suis dit, tiens, il n'y a pas seulement... un changement de paysage ou de vision, mais il y a même un changement de mentalité. Et ça, c'est grâce à des podcasts comme ce podcast-là, c'est grâce à ces émissions-là, qui nous permettent aussi de mettre l'Afrique en lumière et de parler de l'Afrique. Ce soir, on a plus parlé de l'Afrique que de musique.
Exactement.
C'est ça qui est le plus important.
Grand patron, ouais, merci à Asalfo, sincèrement.
Merci beaucoup.
C'était le tiers, Ike et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon homeboy, mon grand frère, j'ai nommé Asalfo pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace! We Hustle, baby.